Au commencement de son ministère terrestre, Jésus s'adresse à la foule dans le sermon sur la montagne et nous lisons en Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce matin, dans le cadre de la mobilisation internationale à l'initiative du mouvement Défi Miché, nous chercherons à dénoncer la corruption. Nous évoquerons des situations concrètes vécues où nous sommes directement confrontés à ces pratiques douteuses. Nous voulons démasquer, mettre en lumière et prendre position contre le mal comme la parole de Dieu nous le demande. Transparency International, en 2013, classe notre pays, la France, en 22e position dans le classement de 175 pays où la corruption a été évaluée. Pour info, les premières places, et donc les pays les moins corrompus, sont le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Finlande et la Suède. Les plus corrompus à l'autre extrémité sont l'Afghanistan, la Corée du Nord et la Somalie, à titre indicatif. À l'évocation de ce classement, on constate que les pays les mieux classés sont plutôt de tradition chrétienne protestante et les moins bien classés, les systèmes politiques totalitaires ou les zones de conflit instables. Les valeurs bibliques de justice et de paix permettent aux citoyens de réduire la tentation de la corruption et ses conséquences néfastes. Lorsqu'on parle de corruption, on pense aussi souvent à l'Afrique, en particulier dans cette période post-coloniale où des pays artificiellement délimités sont devenus indépendants. Rachel et moi-même avons séjourné en Côte d'Ivoire de septembre 1985 à juin 1987 et nous avons été confrontés à cette corruption au quotidien. De notoriété publique, pour faire sortir les bagages du port d'Abidjan qui étaient amenés par bateau, un bon pot de vin aux fonctionnaires des douanes en place accélérait efficacement la procédure. Néanmoins, les différentes sociétés missionnaires protestantes actives dans le pays ont refusé cette pratique honteuse. Un missionnaire, c'était un Australien tout à fait charmant à l'époque, dont je ne me rappelle pas le nom, a été désigné et basé à Abidjan même pour faire les démarches pour chaque nouvel arrivant. Son refus de la corruption, son travail de patience, le fait de tisser un réseau de relations avec les fonctionnaires des douanes plus recommandables que d'autres, nous mettait à l'abri de cette corruption instituée. Et c'est bien le témoignage chrétien, la fidélité à l'enseignement de la Bible qui a permis à ce missionnaire d'être respecté et efficace dans son travail au service des autres. Sur la route, pour rejoindre notre poste de travail à Mans et à Danané, nous avons eu l'occasion de voyager soit avec un véhicule de la mission ou avec les transports en commun. Sur cette route, des barrages routiers, des postes de contrôle arrêtaient tous les véhicules. La gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, toujours une série de trois. On reconnaît immédiatement la copie du système administratif français. Évidemment, chaque fonctionnaire en uniforme contrôlait le véhicule, ses occupants et la marchandise transportée. Pour un bus de 45 à 50 passagers, cette opération de contrôle pouvait durer plusieurs heures. Et pour ne pas perdre de temps en attente inutile, le chauffeur du bus avait l'habitude, lorsqu'il présentait ses papiers, de laisser discrètement apparaître un billet de banque discrètement recueilli par le fonctionnaire. Comme par magie, le contrôle était terminé et la barrière se levait. Pour 600 km de trajet, une bonne dizaine de ces barrages devaient être franchis. En fait, et entre parenthèses, en réfléchissant bien, entre un fonctionnaire ivoirien qui rackette les chauffeurs et le système de péage automatique de nos autoroutes, le résultat est un peu le même. Avec le véhicule de la mission, l'appréhension à l'approche du barrage était réelle. De toute façon, nous avions été briefés de ne pas encourager la corruption et de ne jamais rien proposer, quitte à perdre beaucoup de temps en palabres et en argumentation. Premier barrage de gendarmerie, gendarmes en tenue et armés jusqu'aux dents, en espérant toujours qu'ils ne soient ni illettrés ni alcoolisés. Contrôle, papier du véhicule. Nous présentons la carte grise et le propriétaire du véhicule est Mission biblique en Côte d'Ivoire. Pas besoin de rajouter de billets de banque. Réponse immédiate et quasi sur tous les points de contrôle. C'est bon, vous pouvez circuler, mon père. À 26 ans, ça m'a surpris d'être appelé mon père. J'avais peut-être la barbe, mais la ressemblance s'arrêtait à là. La plupart des fonctionnaires du pays, donc gendarmes, douaniers, agents des eaux et forêts, avaient été enseignés dans des écoles mises en place par les différentes missions avant que le gouvernement ivoirien n'implante sa propre éducation nationale. Ces fonctionnaires savaient que les chrétiens ne participent pas et n'alimentent pas le système de pots de vin et de corruption. Mais peut-on vraiment en vouloir aux fonctionnaires dont le salaire versé par l'État n'arrive pas régulièrement de taxer les véhicules qui passent sur le territoire dont il a le contrôle? Toujours est-il que grâce à l'intégrité, à la lutte passive contre la corruption et le refus des pots de vin de tous nos prédécesseurs sur le champ de mission, notre travail n'était pas entravé outre mesure. Voilà une belle illustration de ce que l'on obtient au quotidien lorsque nous prenons à cœur ces paroles de Jésus « Vous êtes le sel de la terre ». Une anecdote plus proche de nous et plus récente pour montrer que nous pouvons être tentés par la corruption, même chez nous, dans les Vosges. Il y a une quinzaine d'années, il fallait trouver un nouvel endroit pour enfuir les déchets. La décharge de Ménarmont à côté de Ramberbier étant saturée. Un industriel, filiale de Vivendi, a acheté 15 hectares de forêt sur la commune de Dompère, à côté de chez nous. Une association a été créée pour s'opposer à ce projet de centre d'enfouissement de déchets ultimes. J'ai été invité à participer à cette lutte de la population locale qui ne souhaitait pas vivre à proximité immédiate d'une montagne d'ordures et de déchets toxiques divers. Nous avons réussi à freiner l'avancée du projet par des actions ciblées et soigneusement médiatisées. Au bout de quelques mois, un jour, un représentant de Vivendi a pris rendez-vous chez le président de notre association, devenu entre-temps maire de la commune de Labraye. En bluffant un maximum, parce qu'en réalité, nous étions peu nombreux pour des actions de longue durée avec un engagement physique conséquent. Donc il a été bluffé en quelque sorte, le représentant de Vivendi. Et il a bien senti que nous étions déterminés à lutter contre son projet, qui était un projet destructeur de notre environnement. À la fin de l'entretien, il a demandé combien il devait payer, route, trottoir, éclairage public, rénovation de l'école et éventuellement de sous-table s'il fallait, pour que l'association Stop des charges se mette en veilleuse. Comme nous étions préparés à entendre ce genre de magouille, le refus a été immédiat, vif et incisif. Le représentant de Vivendi a pris la porte et Vivendi, à ce jour, n'est jamais revenu sur les 15 hectares de forêt à Dompère. Notre association n'avait rien de chrétien, mais la présence de Gilles Lapierre, que beaucoup connaissent, et moi-même, ont probablement contribué à ce que la défense de l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers d'une multinationale française. Et, accessoirement, que la consommation excessive de bière ne soit pas le prétexte au travail associatif. Là où nous sommes, là où nous vivons au quotidien, soyons le sel de la terre. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que le genre humain est fondamentalement corrompu et corruptible, revenons à l'histoire biblique. Nous avons vu en introduction Adam et Ève libres de faire le mauvais choix. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, violent meurtrier. Vous connaissez l'histoire du déluge au moment de Noé, parce que le genre humain était corrompu. La destruction de Sodome et Gomorre au temps d'Abraham. la mise en esclavage du peuple d'Israël en Égypte et le peuple d'Israël sur le chemin de la liberté qui se fabrique un veau d'or à adorer en désobéissance à l'Éternel. Les prophètes sont en permanence en lutte contre l'influence idolâtre des païens voisins et cette fâcheuse tendance naturelle du peuple Israël à se détourner des préceptes divins. Et même dans le Nouveau Testament, concernant la passion et la résurrection de Jésus. Pâques est tellement important pour les chrétiens qu'il est facile de mettre l'accent sur la croix de Jésus et d'oublier comment il en est arrivé là. Jésus, en fait, a été trahi pour 30 pièces d'argent, Matthieu 27, verset 3. Et de faux témoins l'ont accusé, Matthieu 26, verset 59. Après la résurrection, on donna aux soldats de gros pots de vin afin qu'ils disent que le corps de Jésus avait été volé et les chefs religieux leur promirent de les protéger si la nouvelle parvenait au gouverneur. En fait, les règles et les lois données par Dieu directement à Moïse dans l'Ancien Testament sont destinées à apprendre aux hommes à vivre en harmonie entre eux et en harmonie avec le Dieu de justice et de paix. Nous avons lu plusieurs passages dans le Lévitique en introduction, et comme un refrain, nous lisons toujours à nouveau. L'Éternel parla à Moïse et dit. Et à chaque fois, toute une liste de règles, de préceptes et d'interdictions pour que le peuple d'Israël soit exemplaire dans son organisation sociale. Dans la sphère évangélique actuelle, beaucoup de chrétiens se contentent de ces paroles de Romains 6, verset 14. Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pour ceux qui étaient présents dimanche dernier, Nathalie Mantrel a très bien abordé le thème de la grâce de Dieu et son cortège d'interprétations spirituelles d'événements du quotidien. Et aujourd'hui, nous parlons de la loi, qui en réalité nous aide à discerner ce que Dieu attend de nous. Il y a parmi les chrétiens ceux qui croient qu'ils peuvent se passer de la loi de Dieu. Ils estiment que la loi est caduque depuis que nous sommes sauvés par la grâce et par la foi. Certes, la loi ne nous sauvera pas. Non parce que la loi est mauvaise, mais parce que notre nature humaine nous empêche de la mettre en pratique. La loi n'est pas à mettre à la poubelle pour autant. Jésus a dit lui-même, « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » La loi de l'Ancien Testament nous sert de guide dans nos relations interhumaines. Les droits du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger doivent être respectés. La répartition des richesses terrestres ne doit pas être scandaleuse. Nos unités de mesure doivent être étalonnées et contrôlées pour être précises et justes. La justice doit être équitable et non corrompue ou sous influence. Nous voulons vivre dans un monde juste. La corruption doit être démasquée. Pour conclure, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Du début à la fin, la parole de Dieu nous enseigne comment vivre au quotidien sur terre et comment nous pouvons vivre dans la présence du Père Céleste qui veut notre bien et refuse le mal, la violence et la corruption. La Bible est une suite de textes écrits à différentes époques par des gens différents les uns des autres, où chacun a son style et son contexte historique. Soyons très attentifs à ces petites phrases de transition du type « Dieu dit, l'Éternel parle » ou plus loin dans les évangiles « Jésus dit ». Que Dieu nous donne la sagesse et le discernement pour comprendre sa parole. Il y a dans la parole de Dieu des choses plus importantes que d'autres. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est les paroles de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22. Que cette parole de Paul puisse nous accompagner cette semaine. Amen.